Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. En ce mercredi 29 juin, c'est la dernière semaine de la saison, et depuis lundi, on commence nos bilans de l'année culturelle. Après la littérature avec Auriane Jeancourt lundi, après le théâtre en compagnie d'Armel Héliot hier, aujourd'hui cinéma, l'année cinéma avec Thierry Lounas du magazine SoFilm, et puisqu'on est le mercredi 29 juin, on va aussi parler du SoFilm Summer Camp de Nantes qui s'ouvre aujourd'hui, et ce jusqu'à ce week-end. En deuxième partie, d'un film qu'on vous recommande depuis le Festival de Cannes, La Tortue Rouge. Je serai avec son metteur en scène aux alentours de 6h20, Michael Dudoc de Witt. Mais pour commencer, Thierry Lounas, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est aujourd'hui que s'ouvre le SoFilm Summer Camp à Nantes, et c'est un drôle de festival puisque on honore les films qui sortent, les nouveaux films, mais aussi tous les classiques. Tous les invités de votre festival viennent avec leurs envies de cinéma, leur envie de projeter un film qui a compté pour eux. C'est ça l'idée de ce festival, de ce Summer Camp.
Complètement. L'idée, c'était de proposer à des gens de sortir des moments promo, des grandes compétitions pour venir parler des films qu'ils n'ont pas fait, des films qu'ils aiment et avec qui public pour échanger. C'est un peu la cinémathèque de chacun présentée à Nantes. Alors il y a des invités de toutes sortes, hein, c'est pas que des cinéastes, des acteurs, c'est aussi des gens qui aiment le cinéma et qui ne sont pas du cinéma, comme Christiane Taubira qui vient présenter le cuirassé Potemkin. Et il y a aussi des gangsters, des avocats, des cuisiniers, il y a un peu de tout à Nantes.
Voilà. Mais il y a aussi des avant-premières. Ça reste quand même un festival de cinéma où on peut découvrir avant tout le monde, la dernière Palme d'Or de Cannes, le dernier film de Ken Loach, entre autres, mais aussi le film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV. Déjà, l'année dernière, Jean-Pierre Léaud avait fait sensation en arrivant avec Chantal Goya à Nantes.
Alors, Jean-Pierre Léaud est notre président, donc il est toujours le bienvenu. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était les grandes retrouvailles entre Chantal Goya et Jean-Pierre Léaud qui avaient tourné dans Masculin-Féminin ensemble il y a 50 ans, qui s'étaient jamais revus depuis. Et ils sont revus pour la première fois à Nantes, donc c'était des grands moments de retrouvailles. Et puis, Chantal Goya, elle est géniale, elle est magnifique. Elle a présenté d'ailleurs Rabbi Jacob magnifiquement. Et c'était un grand moment, ces retrouvailles. Et puis c'était aussi le moment où Jean-Pierre Léaud a fait la connaissance d'Albert Serra, physiquement. Et c'était le début d'une collaboration qui a abouti cette année à Cannes à La mort de Louis XIV, jouée par Jean-Pierre Léaud lui-même. Donc il est de retour à Nantes, auréolé en plus d'une palme d'or d'honneur qu'il a eue cette année. Il présentera son Louis XIV... 1h50 sur des derniers moments de Louis XIV, c'est quelque chose.
Alors, des avant-premières et des cartes blanches, une manière aussi de coller à la ligne éditoriale de votre journal, SoFilm, qui honore le cinéma de tous les temps et de tous les genres.
Oui, c'est-à-dire que, voilà, on s'est dit, tiens, on avait envie de rencontrer notre lectorat, et on s'est dit, tiens, en faisant un festival qui ressemble un peu à SoFilm, sans compétition, ça évite les supporters, ça évite les hooligans russes, ça évite d'être, c'est Nantes, c'est pas Marseille. Mm-hmm. C'est aussi l'idée qu'à un moment, l'actualité, elle est pas le mercredi dans les salles à 14h, l'actualité de chacun aujourd'hui, elle est beaucoup plus vaste, elle est très très différente, et de dire que tout pouvait faire actualité si quelqu'un en avait simplement l'envie. Donc toute cette personnalité qu'on a interviewée dans SoFilm, on leur a proposé de présenter un film qui leur tient particulièrement à cœur. Mais ça peut être pour des raisons esthétiques, mais aussi des raisons purement affectives, historiques. C'est le film qu'ils ont été voir à leur petite copine qui est devenue leur femme, ou leur mari, leur petit copain, il y a 30 ans. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça qu'on avait envie de restaurer. C'est parfois des films extrêmement rares. Parfois, c'est des films très, très populaires. Et effectivement, à côté de ça, il y a parfois des avant-premières. C'est important. Même si SoFilm, évidemment, SoFilm Summer Camp est un film plus important, un festival plus grand et plus important que Cannes. On s'était dit bien de rendre hommage à un petit festival comme Cannes en leur proposant quelques films qui étaient passés. Alors c'est pour ça qu'on fait l'ouverture avec La Palme d'Or.
De Ken Loach.
Ou
moi, Daniel Black. Ouais.
Moi, Daniel Black, voilà, ça cherchait. Et puis, on fait la clôture avec un film qui a beaucoup marqué à Cannes cette année. C'est le film Tony Erdmann.
Et qui n'a pas eu La Palme d'Or.
et qui était absolument absent du jury. Et donc, voilà, pour corriger un petit peu cette injustice, on a invité le film... à Nantes. Et puis il y a un grand événement, un grand monsieur qui va venir, c'est John McTiernan. Peut-être que tout le monde connaît pas son nom, mais tout le monde connaît ses films, c'est Piège de cristal, c'est Une journée en enfer, c'est Predator qu'on montre en copie restaurée qui va ressortir cet été. Voilà, c'est peut-être le maître du cinéma d'action américain qui nous fait l'honneur d'être là et qui d'ailleurs animera une table ronde sur comment
mettre en scène un film d'action.
Oui, ce qui n'est pas simple.
Voilà. Et puis Nantes, c'est vrai que c'est une belle ville pour le cinéma parce qu'il y a une histoire du cinéma liée à cette ville. Et puis il y a surtout des salles et même une salle d'art et d'essai.
Oui, ça se passe au 14A, ça se passe aussi au Concorde, qui est une deuxième salle d'art et essai. Mais ça se passe pas que dans les salles, même si c'est important, ça se passe aussi en plein air. Mm-hmm. On avait le grand projet d'un drive-in cette année qui n'a pas pu se faire, mais qui se fera l'année prochaine. Voilà, l'idée c'est que ça soit un festival convivial, où on boit des coups avec tout le monde, on peut même commencer des projets, comme celui de Jean-Pierre Léo avec Albert Serra, mais d'autres aussi. C'est pour ça qu'on invite plus largement des gens aussi qui ont, au-delà du fait de présenter des films, là on fait un Summer Lab. Cette année, on inaugure un Summer Lab. Là, sur le cinéma de genre, ce qui manque un peu de films de genre aujourd'hui en France. Donc, on a proposé à des cinéastes, des acteurs, des scénaristes, des diffuseurs, des chaînes de télé, tout le monde, d'être là pour penser ce que sera le cinéma de genre demain, épouvante, film d'aventure, polar, film fantastique, et de leur dire, attendez, on y va, on écrit, et c'est pour ça qu'on lira déjà une quinzaine de projets de version courte, et puis on réfléchira avec nos partenaires qui sont Canal, Assasem ou Wild Bunch, ce que peut être le cinéma de genre demain. C'est pour ça qu'on montre aussi un film très qui était à Cannes, qui s'appelle Grave, qui est un des rares films de genre qui était montré cette année à Cannes.
Thierry Lounas, pour SoFilm, vous parlez au nom de SoFilm et aussi du festival SoFilm Summer Camp qui commence aujourd'hui, mais vous avez une autre casquette, celui de producteur de films, puisque vous dirigez avec votre frère Capricci.
Oui, on est producteur, on est distributeur d'un certain type de film.
Hein, alors
et ben voilà,
est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose, que c'est la même philosophie qui traverse aussi bien le journal, votre boîte de production et le festival de Nantes?
SoFilm, c'est le résultat de l'association entre Capricci et SoFoot. Ce magazine de football bien célèbre. Donc oui, il y a un petit peu de ça dedans. Et puis non, parce qu'en fin de compte, Capricci n'a pas vocation justement à produire un film de John McTiernan. Et SoFilm pourtant a en parler. Donc je pense que SoFilm s'intéresse. Capricci est un label cinéphile, alors que SoFilm c'est un peu le cinéma un peu dans tous ses états, au sens où à un moment dans le cinéma il n'y a pas que du cinéma. Nous dans SoFilm, si on peut traiter d'un fait divers juste parce qu'un film en part, ça nous va très bien. Si on peut proposer à des gens qui ne sont pas du cinéma de parler de cinéma, c'est aussi parfait. Donc c'est voilà, SoFilm c'est un peu c'est du journalisme, et Capricci c'est de la cinéphilie, mais ils sont pas voilà.
Alors et en soirée, comment vous vous présentez, Thierry Lounas? Quelle est la casquette que vous mettez en avant?
Amateur de films, tout simplement. Et voilà, c'est moi je pense qu'il n'y a pas de vocation. Je pense qu'on n'est pas là pour. Je me sens ni producteur, ni éditeur, ni distributeur. Moi, j'essaie d'aider les copains, c'est tout. Donc voilà, un peu là où ça se passe, là où il y a quelques besoins.
Bon, allez, c'est avec vous qu'on va faire le bilan cinéma cette année, Thierry Lounas. S'il fallait retenir quelques grands films, des événements, des polémiques, qui sait, même des tendances peut-être.
Pour l'année écoulée, je sais pas si je suis particulièrement noir, mais j'ai l'impression qu'on traverse des années où on va être obligé de célébrer beaucoup de grands cinéastes qui meurent, qui sont morts. Et cette année, il y avait Rivette, qui a été un peu oublié d'ailleurs au César, et qui pour moi un moment important parce que c'est un de moins pour la nouvelle vague, et c'était un grand cinéaste dans le même genre et comme figure qui ont compté. Il y a évidemment David Bowie, qui n'est pas étranger au cinéma. Voilà, deux grandes disparitions, avec celle un peu plus tôt de Oliveira, mais comme les vieux sont toujours les plus forts et les morts encore plus, puisque qu'il y avait un film posthume de Olivera Visite qui est magnifique et que je conseille à tout le monde de voir, revoir, et qu'on a pu voir après seulement sa mort. Donc ça, c'est trois moments importants. Et puis après, il y a inévitablement, comme chaque année, le lot de séries qui arrive. Et moi, j'avais beaucoup aimé la saison 2 de Fargo. J'ai déjà beaucoup aimé la saison 1, mais là, j'étais vraiment impressionné par cette série Fargo.
C'est ça, peut-être le style sauf film, c'est de ne pas faire de différence entre les films de cinéma et les séries, de dire que c'est la grande fiction, c'est la création d'aujourd'hui.
Je crois que plus personne fait la différence aujourd'hui entre une série et un film depuis déjà 10 ans, depuis Soprano, grosso modo. Le cinéma se passe à la télé aussi sous forme de série. Donc c'est pas une... Oui, on le pense évidemment et on le traite exactement de la même manière et on met en couve une série aussi bien que tel cinéaste ou tel acteur.
Et puis le Summer Camp de Nantes, c'est aussi un lieu où on peut parler du cinéma, de l'économie du cinéma. L'année dernière, Vincent Maraval a accepté de rencontrer un public qui était constitué de spectateurs, de professionnels. Il a parlé de son métier. Est-ce que aujourd'hui, plus que jamais, Thierry Lounaz, ça restera un lieu pour parler du devenir du cinéma, de son économie, à un moment où on parle d'une nouvelle donne, celle de Canal+, qui va peut-être se retirer du monde du cinéma?
Oui, complètement, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, l'économie des films est immédiatement liée aux aspects artistiques. Le thème de la masterclass de Vincent Maraval l'année dernière, bien connu pour avoir un peu justement attaqué les salaires des acteurs, une certaine façon de produire les films aujourd'hui, il est évident que le thème qui était comment prendre des risques aujourd'hui, que ça soit artistique ou économique. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de grandes œuvres. Et le problème, c'est qu'on est dans un système qui a pour principal objectif de limiter les risques. Donc, tout à fait l'inverse. Donc, nous, évidemment, c'est un festival où à tous les endroits, l'idée, c'est de prendre des risques dans les soirées, mais aussi en faisant des films.
Et enfin, pour terminer, Thierry Lounaz, direz-vous que ça a été une bonne année pour le cinéma français cette année?
Alors, faut que je me fasse rétrospectivement, je ne sais pas. En tout cas, nous, on montre des films français. Il y a Victoria de Justine Triet qu'on monte en avant-première. Il y a toute l'équipe qui vient avec, notamment Virginie Efira, qui est une grande fan de ce film. Et ça tombe bien, parce que nous, on est aussi des grands fans de Virginie Efira. Mmh. Donc, ouais, des Français, des films français, des bons films français, il y en arrive tous les mois. Enfin, peut-être pas tous les mois, mais assez... régulièrement, et je suis assez optimiste sur le cinéma français des 10 prochaines années, parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre façon de faire des films dans le cinéma français aujourd'hui, et qui va assez bien avec ce film Summer Camp.
Et je vois qu'il y a aussi le dernier film d'Alain Guiraudy, Rester vertical.
Non, oui, moi j'aime beaucoup le film, et c'est Damien Bonnard, l'acteur principal du film, qui sera à Nantes pour le présenter. Voilà, Guiraudy était le cinéma de Guiraudy est très ce film, donc on est très heureux d'accueillir Rester vertical cette année.
Merci beaucoup, Thierry Lounaz.
Merci.
France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Soyez le bienvenu ce matin, Michael Dudoc de Witt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de La Tortue Rouge. C'est pas la première fois qu'on parle de ce film sur cette antenne, mais il sort aujourd'hui. Quand je dis c'est pas la première fois, vous étiez hier à la Grande Table. Et puis, depuis le Festival de Cannes, depuis sa projection dans le cadre d'Un Certain Regard où il a obtenu ce prix, eh ben, tout le monde attendait avec impatience la sortie de ce film, ne serait-ce que pour dire le plus grand bien de ce film d'animation. sans parole, mais avec beaucoup de sens, parce que c'est une fable philosophique. Il s'agit d'un naufragé, un homme naufragé sur une île tropicale, une île avec des crabes, avec des tortues rouges, justement, d'où le titre. Et à travers cette histoire, on va avoir un beau conte de l'initiation à la vie. Qu'est-ce que la vie ? Et ça a été fait dans les studios Ghibli, donc c'est pas rien non plus. Quel grand défi !
Merci beaucoup. Studio Ghibli a été producteur de ce film, mais on l'a fait ici en France.
Ouais.
Avec une équipe de beaucoup de Français et plusieurs personnes de l'Europe de l'Ouest.
Mais c'était la première fois qu'il y avait cette coproduction entre l'Ouest, l'Occident et les studios Ghibli.
C'est ça, exactement. Et c'était tellement étonnant quand ils ont proposé l'idée de travailler avec un non-japonais comme moi, que j'ai pris des mois à le digérer,
ouais.
Et à descendre des nuages, parce que pour moi, Studio Ghibli fait parmi les plus beaux films qui existent.
Mm-hmm. Alors, d'ailleurs, ça veut dire quoi, les studios Ghibli ?
Oui.
Certains disent Ghibli, mais enfin, ça veut dire quoi ?
Oui, c'est en fait, eux, ils prononcent Ghibli, comme disent les Japonais. C'est un nom que Miyazaki a trouvé en italien, c'est un mot italien qui veut dire le vent qui vient du Sahara.
Ok, le sirocco. Mmh. Alors, justement, Michael Dudok de Witte, vous êtes très connu dans le monde du cinéma d'animation. Vous avez déjà obtenu plusieurs prix, des Oscars pour Le Moine et le Poisson, mais aussi pour Father and Daughter. Et puis, c'est votre premier long métrage.
Exactement.
Tout en étant très connu, je veux dire que dans le monde de l'animation, on vous connaît.
Ça veut dire que mes courts-métrages ont bien marché sur plusieurs de mes courts-métrages. Et quand ils ont... j'avais pas vraiment l'ambition de faire un long-métrage parce que je trouve que les courts sont déjà puissants et très personnels et ils peuvent être poétiques. Je parle généralement, naturellement. Et quand ils m'ont demandé est-ce que vous avez déjà pensé à faire un long-métrage parce que nous aimerions beaucoup... être coproducteur avec Wild Bunch à Paris, ce long métrage. Je parle du studio Ghibli. Ils ont ajouté, la raison c'est qu'on a vu votre film Father and Daughter, père et fille, qu'on a beaucoup aimé, que dans un sens, on dirait que c'est un film japonais, qui est pour moi un très très grand compliment.
Et, pourquoi c'est pour vous un très bon compliment? D'ailleurs, pourquoi ils ont eu cette réflexion en disant c'est pour nous un film japonais? Ils parlaient de la philosophie du film ou plutôt de son côté artistique?
Les deux, je crois, parce que visuellement, le film est assez dépouillé de style, très simple. Et naturellement, le japonais, malgré une culture très complexe et très riche en couleurs et tout, a très clairement une orientation vers la simplicité, traditionnellement et encore aujourd'hui. Que j'aime beaucoup, que beaucoup de mes collègues aiment beaucoup, une sorte de pureté qu'on trouve dans leur architecture, dans leur jardin, dans leur art, même dans la façon dont ils présentent la nourriture sur une assiette. Et donc, je crois que là, ils ont aimé le côté visuel, la simplicité visuelle, et ils ont aimé l'histoire qui parle d'une émotion, juste une émotion, l'émotion du profond désir, le désir juste le profond désir pour le profond désir, pas pour un objet particulier. Et il s'identifie avec et la façon dont je l'ai traité.
Alors que là, pour ce film, ce long métrage, La Tortue Rouge, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un sentiment, mais c'est quelque chose de plus large. C'est la vie. C'est quoi la vie? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est quoi s'initier à la vie? C'est quoi se séparer de la vie, des êtres chers? C'est quoi vivre avec la nature? Là, vous êtes plutôt dans un conte philosophique panoramique.
Mais écoutez, merci beaucoup, c'est beau. Je dois avouer que c'était un peu ambitieux à la surface, j'aime beaucoup raconter une belle histoire, faire des belles images. Mais pour travailler tant d'années sur un film, je veux plus que ça. Je veux toucher un niveau plus subtil et espérer, pas comme un grand message, mais espérer que le public le voit aussi. Et le niveau plus subtil que je voulais exprimer, c'est d'avoir un très très profond respect naturel pour la nature. Et je veux pas dire juste les jolis animaux et les jolies plantes, mais l'ambiance dans une forêt, le ciel gris, la lumière qui jette des ombres particulières. Donc la nature très en général, et pour les émotions qu'on sent quand on est dans la nature.
Et quelle est notre place à nous dans cette nature? On va raconter un peu l'histoire de la tortue rouge. Donc, ça commence par une scène classique qu'on a lue dans plusieurs livres d'aventure. Le naufrage, un homme tout seul dans une île. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour s'en sortir. Et puis, le côté fantastique arrive. Vous allez donner à cet homme la possibilité de rencontrer une femme. Je vous dis surtout pas comment,
non.
Ni bah oui, parce que toute la beauté du côté fantastique de cette histoire est dans ce détail. Il y aura aussi une procréation, mais là aussi, j'en dis pas plus. Mais l'idée que je trouve très originale, c'est que ce film très parlant, très dessiné, où on ressent les sentiments, mais vraiment bien et très profondément. Ce film est sans parole, comme si ce film s'adressait d'une part à tout le monde, mais surtout à tous les temps, c'est-à-dire y compris au temps où on n'avait pas inventé le langage.
En fait, il y a deux choses. D'abord, j'essaie toujours de simplifier l'histoire et d'arriver à l'essentiel. Donc, on ne sait pas le protagoniste, l'homme qui avec qui le film commence. On ne sait pas d'où il vient, de quel pays, de quelle culture et de quelle période dans l'histoire. Et je trouve ça intéressant, mais il ne faut pas que ce soit un manque. Il faut qu'on tout de suite on s'identifie avec l'homme. Et au début, en plus, j'avais écrit dans le scénario quelques phrases que l'homme communique avec les autres personnes qui arrivent dans l'histoire, parce que je croyais ça les rendrait plus humains, plus naturels. Et deux, il y a quelques moments dans l'histoire où je me disais, oui, il faut quand même expliquer avec une phrase, parce que c'est beaucoup plus direct. Et ça sentait pas bon, parce que c'était quand même un peu un choc quand tout à coup il commence à parler, comme si on se disait, ah bon, d'accord, il parle français, ou ah bon, il parle anglais. Donc, on a fait aller-retour là-dessus. J'ai eu beaucoup d'aide d'une co-scénariste.
On en parlera après.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ça, c'est oui. On peut en parler tout de suite. D'ailleurs, Michael Ludogdevitz, ça vous a pris combien de temps pour écrire La Tortue Rouge? Pour faire ce film, 7 ans, non?
Oui, pour faire le film, j'ai commencé tout début 2007 et je viens de le finir. Nous venons de le finir il y a 2 mois.
Et vous avez donc travaillé avec quelqu'un qu'on connaît très bien sur France Culture autour du scénario de La Tortue Rouge, c'est-à-dire Pascal Ferrand. Et pourquoi Pascal Ferrand? C'est une idée du producteur?
Oui, en fait, ça veut dire que on écrit l'histoire dans plusieurs phases. D'abord, j'ai écrit le scénario normalement, texte sur papier. Quand tout le monde était content, je suis entré dans une phase suivante. Ça veut dire, je fais quelques milliers d'esquisses qu'ensuite je filme et on voit le film juste avec des crayons, des esquisses fixes, sans animation, juste des dessins fixes. Disons 5 dessins pour 10 secondes ou 7 dessins pour 10 secondes, plus ou moins. Et avec ça, je découvre le langage avec lequel je veux raconter l'histoire et je découvre aussi la puissance du langage et les difficultés du langage qui est relativement nouveau pour moi dans le long métrage. Alors j'ai pris mon temps à résoudre des problèmes, mais il y a certains problèmes dans l'histoire que j'arrivais pas vraiment à résoudre de façon profonde. Et les producteurs étaient d'accord avec moi, ils ont dit... Oui, on a l'histoire, mais c'est pas assez fort, ça pourrait être plus fort.
Et donc vous avez travaillé avec Pascal Ferrand.
Exactement.
Alors comment vous avez travaillé avec elle? Elle qui vient du cinéma, classique, dit classique,
oui.
Et vous qui venez du monde de l'animation.
En fait, ça m'intéressait beaucoup qu'elle est spécialiste de prise de vue réelle, parce que moi aussi je regarde les films classiques de prise de vue réelle pour m'inspirer. Et elle a fait une proposition qui était très attirante. Donc mon producteur l'a demandé, est-ce que vous pouvez aider Michael, et elle a fait une proposition qui montrait qu'elle avait la bonne sensibilité pour le film, et pour moi c'était un privilège parce que elle a beaucoup d'expérience aussi dans l'écriture, elle a une compréhension du langage du cinéma qui est non seulement très sophistiqué, mais aussi elle peut le verbaliser. Moi, je suis quelqu'un qui est intuitif, je le fais et c'est tout. Mais sur le long métrage, on peut pas juste faire les choses, il faut le communiquer avec les collègues.
Et vous voulez faire passer un message, une envie de comprendre le monde autrement, une sensation, une addition de sentiments à travers La Tortue Rouge, Michael Ludogdevitz? C'était quoi votre idée de départ?
Mon idée de départ... Oui, donc c'est c'est la grandeur de la vie, la beauté de la grandeur de la vie, que je suis impressionné par la vie. Ça paraît un peu exagéré, peut-être comme message, mais juste simplement, subtilement, pas moins de grandes déclarations. Et naturellement, la beauté de la nature, qui est presque la même chose. Et y compris la mort, qui est aussi naturelle dans ce film. C'est pas un de ces films cartoon où quelqu'un peut tomber de 100 mètres de hauteur et survivre. C'est un film où tout de suite, dès le début, on sent que chaque animal, chaque personne peut mourir à tout moment, comme dans la vie réelle, quand il y a des dangers. Et la raison, c'est que ça crée plus de suspense. On vit plus avec la personne parce qu'on veut pas qu'il meure. Et on voit que ça peut arriver à tout moment. Et l'autre raison, c'est un peu plus difficile à dire, mais j'ai un très profond respect pour la mort. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément beau, que la côté éphémère de la vie est très, très belle. Tout arrive, tout passe, tout évolue. Et je trouvais que c'était beau d'exprimer ça tout simplement dans un film.
Michael Dudoc de Witte, comment vous avez travaillé entre deux conceptions du cinéma qu'on imagine assez différentes, entre les studios français, hein, où a été dessinée La Tortue Rouge, et les studios Ghibli?
Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer la chance. Ils ont dit dès le début, carte blanche pour l'histoire, et ils n'ont jamais dit, et d'ailleurs je ne l'ai jamais demandé non plus, ils n'ont jamais dit qu'il faut que ce soit un film japonais ou que ce soit un film studio Ghibli. Ils ont juste dit, propose-nous quelque chose et on va voir si ça marche. Donc moi, je n'avais pas envie de faire un film japonais, mais eux, ils n'avaient pas envie que je le fasse non plus. Ils voulaient que je propose un style. Alors visuellement, le style est pas loin de studio Ghibli parce que y a un côté esthétique, une sensibilité qu'on partage, mais c'est authentiquement européen, on voit tout de suite.
Ouais. Et ça a été fait en France d'ailleurs.
Ça a été en France avec le studio Prima Linea, et par exemple je suis profondément inspiré par des artistes comme Hergé, Moebius, le look, le design européen.
Ouais, bah. Ça s'appelle La Tortue Rouge, et s'il fallait voir qu'un seul film en ce moment, je vous assure que c'est ce film-là. Michael Dudoc de Witte, vous êtes tout à la fois francophone, puisque vous n'avez pas eu besoin d'un traducteur, vous êtes d'origine, ou pas du tout d'origine, hollandais, et vous vivez à Londres, c'est bien ça?
C'est exactement ça, mais j'ai eu quelques avantages, à part du fait que j'ai beaucoup parlé français sur cette production, donc c'est évident que j'ai pu peaufiner mon français. J'ai une mère qui vient de Lausanne, en Suisse, et j'ai une femme qui vient de Genève, en Suisse.
Bon.
Donc j'ai pu exercer un peu mon français dans le passé.
Vous êtes européen.
Voilà.
Dans un pays qui a choisi de ne plus l'être, mais ça va.
C'est ça, oui, exactement.
Merci beaucoup d'être venu. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr. Émission préparée avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert. Réalisée comme tous les jours avec Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Julien Doumanque. Demain, on continue notre série des bilans. Demain, on parlera d'art et des grandes expositions à rattraper si vous les avez ratées. Bonne matinée, à demain.